deux, c'est mieux, avec Luc de Doncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, en direct de nos studios de la belle visite aujourd'hui. Christine Lamère, allô?
Salut, salut, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu?
Bien, ça va très bien. Mais oui, on tient le coup, hein? On n'a pas le choix, puis on essaie de se changer les idées, de faire de l'exercice.
Et
je t'aime,
chandail,
et je t'aime beaucoup, et je t'aime beaucoup pour prendre la route et puis venir à Sorel, même si j'arrive dans un pays, un coin de pays de mon enfance, je dirais.
Oui, t'as de la famille ici, toi.
J'ai toujours de la famille, tante Henriette, tante Gabi, tante Louise, des cousins, des cousines, et j'ai passé des étés à Tracy, sur le bord du fleuve, c'est un beau coin.
Donc, à chaque fois que tu reviens, il y a des images qui reviennent en tête,
des souvenirs,
ou des souvenirs.
Des souvenirs. Oui, je porte...
Le chandail de Louise Latraverse.
Ouais. L'amour, Chris. Je pense qu'on a raison de le dire davantage depuis un an qu'on vit cette pandémie. Ce qui est important, c'est ça, c'est l'amour, c'est entretenir aussi nos liens d'amitié avec nos FaceTime, là. Et garder nos distances, comme en ce moment.
Avec un plexiglas. On va parler de ton roman, Téléroman saison 1, où tu vas dans l'univers de la télé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une commande au départ, ce livre-là,
ouais.
Non?
Alors, c'est André Gagnon, l'éditeur senior chez Urtubiz, qui me lance cette idée-là comme ça. Écoute, c'était l'explosion, hein, parce que j'y ai travaillé un peu. J'ai travaillé non seulement à Radio-Canada, mais j'ai travaillé aussi à TVA, j'allais dire Télémétropole, mais à l'époque,
ben, c'était Télémétropole.
C'était
ouais.
Ça, avant que ce soit TVA. J'ai travaillé à l'époque à 4 saisons, Télé 4 saisons. En fait, le seul endroit où je n'ai pas travaillé, j'y ai peut-être mis les pieds, mais je n'y ai pas travaillé en tant que tel, c'est à Télé-Québec. Mais j'avais une bonne idée de ce que pouvait contenir Téléroman, ce que je pouvais raconter, mais c'est une fiction, hein.
Oh,
tu
oui.
L'as lu, c'est une fiction. Alors, j'ai inventé un personnage, Marie Jolicoeur, qui devient Marie Jolie, mais je me suis évidemment inspirée de ce que j'ai vécu et ce que d'autres ont vécu. L'idée de départ, c'était pas de magnifier notre métier, mais c'est de soulever un petit coin de couverture pour montrer un petit peu ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qui se passe sur les plateaux de télé. Mais j'ai commencé en 58.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, bon, 58, ça fait une couple d'années que la télé roule. Alors moi, je suis à Radio Nationale.
Qui est Radio-Canada, en fait.
Eh bien, oui. Hein. Radio Nationale. Je me suis amusée, tu sais.
Ben oui, ben oui.
Énormément. C'est pas qu'en 58, j'y étais déjà. C'est que mon père était réalisateur déjà à cette époque-là. Pas en 58, il était assistant de plateau, mais quand même, il était dans la boîte. Donc, ouais. J'ai mis les pieds très, très jeune sur un plateau de télévision, entre autres, Monsieur Surprise.
Wow.
Une émission avec Raymond Lévesque et puis, mon Dieu, l'animatrice qui était avec lui, j'ai un blanc, là... Mais j'ai été très, très jeune sur des plateaux. C'était impressionnant. Tu sais, quand t'es petit, j'avais peut-être 4-5 ans, tu sais. Et j'ai grandi donc avec un père aussi qui y travaillait. Tu sais, quand un père qui est dans ton salon et qui regarde la télé et qui, là, il saute ou il passe ses commentaires sur un mauvais plan de caméra ou un mauvais enchaînement. Tu sais, quand t'es petit, tu comprends pas. Mais quand tu y es, eh bien là, t'as saisi un petit peu ce qu'il voulait
dire. Tu les
dire.
Réactions. Oh,
je
ouais.
Comprenais un peu ses réactions.
Mais est-ce que comme Marie Jolicoeur, elle qui rêve de faire de la télé,
oui.
en regardant la télé,
tout à
toi,
fait.
Tu y allais, est-ce que comme elle, ça, tu voulais
non,
être dedans
du tout,
la télé?
Du tout. Okay. Pas du tout, pas du tout. Non, je me destinais à humblement à être concertiste, c'est-à-dire j'étudiais en musique, puis je voulais... J'étudiais, mon instrument, c'était le piano, puis je rêvais là, tu sais, d'étudier en Europe. Et puis, ben, le parcours a quand même dévié pas mal. Mais j'ai inventé ce personnage de Marie qui, comme plusieurs à l'époque, quand ils regardaient la boîte à images en noir et blanc, ben, ils rêvaient. de plusieurs rêvaient d'en faire. C'est un peu comme la radio aussi. T'es jeune, t'écoutes la radio, c'est mystérieux. La télé, la radio, c'est mystérieux. Il y en a beaucoup comme ça qui ont commencé, qui ont rêvé de faire la radio et qui se sont retrouvés un jour dans un studio de radio.
Son idole à Marie-Jolie, c'est Hélène Bédard, qui était l'idole de toute une génération de jeunes filles à l'époque.
Je te dirais que moi aussi, écoute, elle avait un style, hein? Elle s'exprimait très bien, mais physiquement, c'est une belle femme. Elle s'habillait, mais c'était toujours très élégant. Mm-hmm. Alors moi aussi, ça m'a marqué. Donc, tu sais, c'est Télérama, ça transpire un peu beaucoup de moi, de ce que j'ai fait dans le métier. Tu l'as calculé, là, ça va faire bientôt 50 ans.
L'année prochaine.
Alors, il y a des choses qui me sont arrivées fabuleuses. Tu sais, l'époque où on partait à Toronto, là, et puis on enregistrait, on faisait des commerciaux, là. J'étais pas connue, là. C'était les années 70, début 80, mais plus 70. Puis on arrivait là-bas, là, le talent français, le French talent. On se tapait l'éclairage. Et là, la première scène, c'était pas nous. On ne prenait pas le French talent. C'était le talent anglais qui embarquait, qui faisait la première prise. Puis après ça, le talent français.
Donc vous autres, vous serviez à faire les tests.
On se tapait l'éclairage, on suait à grosses gouttes. C'est comme ça que tu apprends, hein? C'est comme ça que tu apprends le métier. Et puis on parlait tantôt de Michel Louvain. Tu sais, c'est le grand, grand respect, ce qui est ressorti des témoignages depuis son décès, c'est ça. C'était un grand... C'était un homme qui avait un respect... Bon, qui adorait son métier, qui avait un respect de... Pas seulement envers les gens avec qui il travaillait, mais tout le monde sur un plateau. Tout le monde. Il était respectueux de l'assistant sur le plateau autant que le machiniste qui va lui apporter un verre d'eau. Merci. Alors moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec Guy Sanche, entre autres. Je faisais de la radio, là. Tu sais, l'époque de la radio est un petit peu avant la télé, avant Bobineau. Mais c'est ça, c'est que tu travailles avec une équipe. Seul, tu ne fais rien, tu ne peux rien faire. T'sais?
Et Guy Sanche faisait ça aussi. Il respectait tout le monde sur le plateau. Pour ceux qui... Guy Sanche et Bobineau.
Alors, aller à bonne école, tu sais, c'est ça. C'est ce que tu as écrit.
Oui.
Tu sais, c'est aller à... On dit ça, l'expression « apprendre sur le tas », mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, d'apprendre. Et on continue d'apprendre. Et les dernières années, quand j'ai fait de la tournée, t'as vu, entre autres, le Pygmalion, ouais. Où j'ai travaillé, entre autres, avec Elisabeth Chouvalidze, tu sais, qui a 60 ans et plus de métier. Travailler autant avec des gens comme ça, des gens qui ont du métier, des années, que des jeunes qui ont du talent. Ça nous motive, ça... Enfin.
Et Bobinette! Bonjour, bonjour tout le monde! J'ai pas la marionnette, elle l'a pas apportée, elle l'a oubliée, mais la voix est toujours là, hein? Ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
T'es en forme?
Ça va très bien, merci.
Alors, les gens me disent, c'est incroyable, t'as toujours la même voix. Mais qu'est-ce que tu veux? Je m'amuse à dire qu'elle est cousue sur mon cœur à vie, là, la bobinette. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir eu la chance d'interpréter puis de la manipuler, là, l'héroïne de mon enfance, quand même.
Je te demandais tantôt, parce que moi, je ne l'ai jamais rencontrée, Bobinette. Je te disais, es-tu tannée quand tu la demande? Parce que, évidemment, ça a été le début, mais ça a été... T'as qu'un début, là. Ça a été très marquant. Là.
Ça a été... Ben, c'est quand je disais plus tôt que j'aurais aimé être concertiste, tout ça, c'est là que j'ai bifurqué puis que je me suis retrouvée derrière un Castelet à 19 ans. Ça a été le choc, c'était la révélation, je te dirais, de la télé, lire un texte, débrouiller un texte, et puis surtout, je pense, c'est d'imiter cette voix qui avait été créée par Paul Bayard et de manipuler. Tu sais, j'avais beau être assez agile comme pianiste, mais manipuler la marionnette. Puis je vais te dire, C'est comme si ça avait été tout seul. Là. Premièrement, avec Guy. Guy, ça a cliqué tout de suite. Ça a été un grand frère pour moi, étant donné que je suis l'aînée de la famille. Donc, c'est devenu un grand frère. Et un mentor aussi, parce que je commençais là, mes premiers pas sur un plateau de télé. Je faisais déjà de la radio. J'avais été à CKLM, ensuite CKAC, mais chaque métier, il y a un fond. Là. Le fond, c'est qu'on est avec une équipe, on travaille avec une équipe, mais le médium est différent. Alors, c'est une adaptation, c'est un apprentissage. Et puis, même aujourd'hui, j'y vais la semaine prochaine pour enregistrer l'émission animée par Stéphane Bellavance, là, la nouvelle émission « Comment tu t'appelles ?» Et encore là, je te dirais que c'est... à chaque fois, je remets le pied. Tu sais, les souvenirs remontent à la surface. Et tu te revois mettre le pied à une certaine époque, quand je faisais Marisol, quand je faisais Bobineau, Les Anges du matin aussi, avec Denis Bergeron, avec mon mari, tu sais. Mais c'est toujours un grand, grand plaisir de remettre les pieds en studio, puis de renouer avec ce médium-là qui est fascinant. Encore aujourd'hui, tu vois, ça me fascine, puis j'ai un grand plaisir à y aller.
Et de s'en faire parler encore, 40 ans plus tard, par ces enfants-là qui sont devenus...
Comme toi.
Comme moi, qui sont devenus des grands, qui, pour certains, travaillent dans ce métier-là. Quand tu vas sur un plateau, il y a beaucoup de ces machinistes, caméramans, animateurs, maquilleurs, maquilleuses qui sont des,
Qui sont des gens qui ont grandi... Ça dépend de leur âge.
Il y en a qui ont grandi avec Bobineau, là-dedans.
Ah oui, il y en a. Il y en a pas mal, oui. C'est ça. Quand on me parle de Bobinette, ben là, tu dois avoir 40 ans plus, toi.
Oui, parce que ça a arrêté en 83, c'est ça?
85. Alors, les 40 ans et plus. Je me fie à l'âge de ma fille Martine. Là,
OK.
Ce qui est formidable aussi, c'est lorsque je me ramasse, pas en ce moment parce qu'à cause de la pandémie, il n'y a pas de Salon du livre, mais lorsque je suis en Salon du livre en signature, ce qui me fait rire, ce qui me fait rigoler, c'est lorsqu'un jeune s'approche. Et puis, il a acheté un livre, et puis là, il demande un autographe. Et là, je lui demande, c'est pour qui, ce livre? Il dit, c'est pour ma grand-mère. Pour revenir au fait que ça ne m'embête pas du tout lorsqu'on me parle de Bobineau, c'est la fierté. Tu sais, tu te rends compte quand ça fait des années que tu es sorti de la forêt, là, de cette chance que tu as eue, c'est que tu réalises l'impact que ça a eu.
Oui.
L'impact est énorme. Je te dirais même que lorsque je sors la voix, même si je n'ai pas la marionnette, les gens en sont très, très émus. Hein.
Ben, ça m'a touché. Tantôt.
Et tu m'as dit pendant la pause que tu avais été voir l'exposition au Musée de la civilisation au Québec, l'exposition « Nom d'une bobinette ». Alors, c'était une magnifique murale, puis ça t'a touché aussi, je pense. Hein?
Ben oui, parce que c'était de revoir ces costumes-là, de revoir ces personnages-là qui ont habité mon enfance, carrément.
Mais je te dirais que c'est une partie...
J'essayais d'expliquer à mes enfants c'était exactement quoi Bobineau.
Oui, mais c'est une partie qui a été sauvée in extremis.
Oui, j'imagine.
De ce qui aurait pu être, j'oserais dire, le carnage du département des costumes à Radio-Canada. Tu sais.
Ça te faisait quoi de l'avoir, l'exposition? Toi, t'es allée? Évidemment, t'as participé à l'élaboration.
L'élaboration, c'est-à-dire que chaque morceau de qu'ils ont été récupérés, chaque morceau de vêtement, il y avait une signature, c'est-à-dire, je disais à Valérie Laforge, la conservatrice, je disais, ça, c'est les années 60. Ça, c'est vraiment une robe, un déguisement. Ça, c'est vraiment à cause de la façon dont le costume était fait. C'était de la haute couture. Après ça, il y a eu une époque, je dirais, l'époque feutre. Alors, celle qui s'occupait de fabriquer
les vêtements. Tout était en feutre.
Ben c'était facile. Tu sais, un petit coup de ciseau, puis... Mais c'est ça, c'est écoute, c'était quand même 28 ans, là. 28 ans.
Mais c'est fascinant qu'il y ait eu autant de costumes pour une marionnette.
Comme je te dis, c'est malheureux parce qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont pris le bord, je te dirais. La conservation du patrimoine, on n'a pas ça en nous, c'est pas dans notre ADN. T'sais. Alors, tant mieux si on a des Valérie Laforge qui vont chercher ces artefacts. Entre autres, elle est allée chercher les costumes fabuleux de François Barbeau. J'en ai vu un peu parce que quand tu visites les voûtes où on entrepose les artefacts, chaque voûte est spécialisée dans une catégorie particulière. Okay. Dans une voûte, on y entrepose tous les objets en bois. Dans l'autre, alors j'ai visité le textile. Alors la voûte est à tel degré.
Pour que ça se conserve.
C'est ça. C'est fascinant. Alors, j'ai participé cette exposition. Et puis, ils gardent cette exposition, puis ils vont la montrer à un moment donné, parce que malheureusement, c'est parti en temps de pandémie.
Ouais.
Et puis, ça ne dure pas longtemps, les expositions. Hein.
Moi, j'aimais ça d'avoir en temps de pandémie, c'est ce que je te disais pendant la pause, parce qu'il y avait un nombre limite de gens qui pouvaient entrer dans le musée. Il y avait une distanciation obligatoire. Ouais. On le sait, quand on va au musée, souvent, particulièrement l'été, en pleine saison touristique, on est pressé on veut pas faire attendre trop les gens qui sont en arrière. On est avec les enfants, on essaie de faire ça vite. Mais là, on avait du temps. Il y avait de l'espace pour observer puis voir comme il faut ce qui se passait. Ouais. Dans ce cas-ci, autour de l'univers de Bobinette, en fait, là, c'était Bobinette, mais autour de cette période-là de mon enfance, en fait.
Ah oui. Moi, en tout cas, j'étais pas bouleversée, mais remuée. C'est touchant, là. Puis on avait fait un petit montage vidéo pour expliquer un peu, alors, ce que j'ai vécu, moi, dans cette période de 12, les 12 dernières années. Alors, tu avais aussi le petit vidéo qui roulait, là, dans l'espèce d'immense murale. C'est vrai que c'est impressionnant.
Ouais. Hein? On va revenir à Téléroman saison 1, parce que ton personnage de Marie Jolie, ben il faut qu'elle se débrouille dans un monde de gars, parce que la télé, c'était beaucoup, beaucoup ça.
Mais là, il faut se replacer. Donc, au début de la télé, j'ai commencé en 58.
Il y a quasiment rien que des gars.
Télévision noir et blanc en direct. Ceux qui dirigent, ceux qui y sont, là. Hey, t'as pas une fille qui est derrière une caméra comme aujourd'hui. Allez, à l'époque, les caméramans étaient en costume, veston, cravate, là.
OK.
Mais c'était un monde d'hommes. Ceux qui dirigeaient, ceux qui étaient directeurs des programmes, réalisateurs, bon. Il y avait à Radio-Canada à l'époque, bon, les assistantes, on appelait ça des scripts assistantes, qui la plupart du temps étaient rôles attribués aux femmes, là. Mais écoutez, il n'y en avait pas à l'époque là, de réalisatrices. Disons, c'était un monde d'hommes. Et mon personnage, Marie Jolicoeur, elle essaie de faire sa place dans ce monde d'hommes.
Ce qui n'est pas simple.
C'est pas simple, tu sais. Elle commence en bas de l'échelle, elle commence, mais elle apprend vite, parce qu'elle a elle est à l'écoute, puis elle a les yeux, puis un peu comme moi j'ai fait dans le fond, tu sais. Tu regardes les autres travailler, t'apprends, et t'apprends toute ta vie. Quand j'ai parlé tantôt que j'ai joué au théâtre avec Elisabeth Chouvalidi, je la regardais aller, c'était un poème de la voix, pas seulement sur scène, mais en coulisses, parce que en coulisses, les gens savent pas ça. C'est véritablement un ballet, souvent. Un ballet dans le sens que nous, les acteurs, quand on n'est pas sur scène, on est en coulisses, on attend, mais on ne se tourne pas les pouces, on range les costumes, on arrange les accessoires. On est très, très actifs.
Il ne faut pas s'accrocher, on
est dans la pénombre. Mais c'est fascinant, l'envers d'un décor, et c'est ça que j'ai voulu peut-être... montrer dans Téléroman saison 1, c'est ce qui se passe sur un plateau. Comment ça se passe? Alors, le début, quand il arrive un incident en direct et puis qu'il y a un acteur qui oublie qu'il y a encore une scène à tourner, si je te disais que c'est arrivé, il y a beaucoup d'incidents comme ça en télévision en direct qui sont arrivés. C'était cocasse, des fois c'était dangereux. Il y en a qui ont failli avoir des commotions cérébrales. Je ne parle pas de cet incident-là, mais c'est tellement drôle. Ils ont monté Le Marchand de Venise dans le Grand 42 à Radio-Canada dans les années 50. Ils ont recréé un canal avec une piscine, puis la gondole, puis tout ça. Et un des acteurs a malheureusement donné un coup de rame sur la tête de son camarade. Écoute, l'autre est tombé à l'eau. Il aurait pu y passer en direct, là.
Oui, ben oui.
Je te dirais qu'il y a aussi des... Il se passe des incidents aujourd'hui encore.
C'est sûr.
Peut-être moins parce qu'il y a moins de direct, sauf tout le monde en parle, qui s'est mis au direct. Alors, là, il n'y a plus de montage.
Mais est-ce qu'il y a des histoires que tu racontes que les gens t'ont pas cru? Je sais que moi, tu m'as parlé de William Shatner.
Bon,
entre autres,
alors, le réviseur...
On t'a pas cru.
Alors, ouais. Le réviseur l'avait carrément enlevé, ce qu'il n'a pas le droit de faire, là. Je travaille avec une éditrice, Pascale Morin, depuis des années. Et c'est notre sixième roman. Ça, c'est mon septième, là, mais ça fait six fois, là, six ouvrages, six manuscrits avec lesquels je travaille avec Pascale. Et Pascale, c'est elle qui va me dire, ça, j'enlèverais ça, ça, c'est son rôle de travail éditorial, en fait. Mais le réviseur avait enlevé ça parce que lui, il se disait, ça n'a pas de bon sens, c'est poussé, là, c'est tiré par les cheveux. Eh bien, j'ai dit à Pascale, mon éditrice, hey, on remet ça parce que tu sais que ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé quand je faisais Marisol dans les années 80. Je tournais, dans les nouveaux studios. Alors, il y a eu une rallonge, il y a eu deux grands studios qui sont ouverts. Là. Il y avait le H et le G. Puis dans le G, on tournait un film. Alors, c'était souvent un studio qu'on TVA louait en location pour les tournages de films. Bon. Et dans le H, on tournait Marisol. Et je sors on est au niveau des loges au-dessus, là, à l'étage au-dessus. J'ouvre la porte de ma loge, mais je tombe nez à nez avec William Shatner.
Écoute, le Capitaine Kirk.
Capitaine Kirk. Bon, laissez-moi vous dire que... J'étais stupéfaite, charmée, parce que c'est un charmeur.
Ouais.
C'est un gars qui n'est pas très grand. À l'époque, il était plutôt mince.
Il parle français aussi.
Parce qu'il est né à Montréal, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Mais tout ça pour dire que bonjour, juste le bonjour. Un beau sourire, tu sais, le beau gars. Là, et là, lui, il pensait que je tournais dans le film. Alors, je lui ai expliqué comme ça... que j'étais plutôt dans l'autre studio, je tournais un soap. I said, I'm doing a soap.
Donc, elle se peut, cette histoire-là. Alors qu'on pensait que c'était incroyable.
Là-dedans, il y a beaucoup de... Dans le téléroman saison 1, il y a pas mal de trucs que j'ai vécu, entre autres. Ça, ça a été extraordinaire. Dans les années 70, quand je suis partie pour New York, je devais aller... à l'usine Playtex au New Jersey.
Pour une pub, donc pour une campagne de pub?
C'était pour qu'on me fasse faire un soutien-gorge sur mesure.
Okay.
Alors, je suis entrée à l'usine, je suis entrée dans le petit bureau de celui qui prenait les mesures. Et là, sur les murs de son bureau, il n'y avait que Jane Russell dans toute sa splendeur parce qu'elle était porte-parole de Cross Your Heart. I said, I'm stunned. You know Jane Russell. He said, yes. C'est moi qui prends ces mesures. Ah! Et j'ai eu le même qui prenait les mesures.
Oui, oui.
Les menstruations. Sauf que j'ai jamais rencontré Jane Russell. Mais penses-tu que je me suis gênée dans Télérama saison 1? Marie Jolicoeur rencontre. Parce que le petit le couturier dit, wait, I think
elle était
he's still...
Loin, ouais.
Était pas loin, alors il est allé la chercher. Marie rencontre Jane Russell. Marie devient porte-parole du soutien-gorge, porte-parole canadien. J'ai inventé ça, là.
Oh,
tu sais.
Oui. Mais ça aurait pu arriver.
Les dates coïncident. Alors, il y en a quelques lecteurs qui m'ont dit, mais t'as dû faire de la recherche. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que je voulais vraiment
être dans mon époque
aussi. Mettons que je parle de Jane Russell. Eh bien, je voulais voir si elle était toujours à cette époque-là vivante. Ouais. C'est tous des petits détails, tu vas me dire, mais pour moi, c'est important. Je pense que pour le lecteur aussi.
Ben, particulièrement si c'est quelqu'un qui suit, par exemple, Jane Russell, puis qui remarque quelque chose qui ne marche pas.
Ben non, parce que si lit ça, puis elle est morte 2 ans avant, tu dis non, là, ça marche.
Puis il débarque de l'histoire à cause de ça. Bien souvent, ça va le faire décrocher, en fait.
Ouais.
On parlait de Téléroman saison 1. Je disais en début d'émission que c'était une commande, d'abord. Mm-hmm. Mais ça a décliqué quelque chose, parce qu'il y a... Il y en a deux de confirmés,
alors,
il y aura une saison 2.
Donc va paraître à l'automne.
Donc c'était là, l'histoire était là en dedans de toi, puis elle attendait juste que ça démarre.
Oui. Tu sais, quand je te disais tantôt, hors d'onde, que quand on écrit, bien, c'est de savoir comment démarrer l'écriture. Peu importe un article dans un magazine, comme tu en signes plusieurs, tu as de l'entraînement.
Oui, mais j'ai encore de la misère à les commencer.
Mais c'est ça, c'est il faut partir. On a une idée. Hein?
Ouais.
Beaucoup de gens vont me dire « Oh, j'ai toujours rêvé d'écrire, puis ça me semble tellement difficile. » Non, c'est pas difficile d'écrire. C'est juste qu'il faut le faire, il faut s'entraîner. C'est un entraînement. Tu sais, si tu écris tous les jours. Puis avoir une idée, c'est bien beau. Tu sais. Ah, y en a qui ont plein d'idées. Mais ramasser les idées...
Puis que ça se tienne.
Puis que ça devienne une histoire, puis c'est pas évident. Moi, ce que je fais, c'est que je prends beaucoup de notes. Je vais sortir d'ici, mettons, là, puis il me vient un mot, une idée, une phrase, je l'écris ou j'enregistre sur le dictaphone. Mm-hmm. Je veux pas rien perdre, je te dirais. Parce que c'est beau, les idées, mais comme je te dis, il faut les mettre en...
Donc, quand tu entames un processus d'écriture, tu réécoutes et tu relis les notes pour voir s'il y a quelque chose qui allume de quoi?
Ce que je vais faire souvent, c'est que je vais écrire un chapitre. Mon premier lecteur, c'est Denis. Alors, Denis me lit et c'est un très, très... Il y a un très bon jugement. Puis c'est sûr que moi, je suis dans la forêt, je suis en train d'écrire. Mais Denis est à l'extérieur, alors il agit comme un lecteur qui va lire ça pour la première fois. Et là, il va me dire, j'ai pas compris cette phrase-là. Pourquoi tu fais pas ça? Alors, il y a un très, très bon jugement. Puis, il m'aligne sur des voix. Puis, je te cache pas que des fois, à l'apéro, ce qu'on va faire, c'est qu'on parle de plein de sujets. Et on va parler de ce que je suis en train d'écrire. Et puis là, il me donne des idées. J'en ai, mais je me dis, ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai que si je prenais cette tangente-là, oui, c'est ça. Et comme disait Dany Laferrière, on est des pilleurs de vie.
Alors, oui.
On s'inspire de pas
tout
loin, de vie qu'on a entendu parler, d'histoire. Alors, ce que je suis en train d'écrire, ben c'est ça, ça part d'un fait que j'ai entendu. On m'a raconté un fait. Je suis partie de ça. Mais ça a mûri. Je ne suis pas partie le lendemain puis commence à écrire. Il faut que ça mûrisse, il faut que ça mijote.
Des fois, ce n'est pas le bon moment pour l'écrire non plus.
Ça.
On n'est pas à la bonne place pour écrire ce type d'histoire.
Je pense que c'est un état de grâce, on dirait. À un moment donné, on le voit, là. Je le vois, puis ça part. J'adore écrire. Vraiment, là, je me suis découverte une passion.
Mais c'est comment ce rapport-là avec les lecteurs, lectrices? Parce qu'évidemment, quand on fait de la télé ou quand on est au théâtre, les gens choisissent l'émission, ou en tout cas les gens qui sont dans l'émission. Là, le livre, ben, c'est toi qui choisis. Il n'y a que toi. Là. Est-ce que c'est touchant de savoir qu'on choisit toi?
Je t'avoue que la question est bonne parce que au début, quand j'ai commencé à écrire, « Ah, t'as la réaction, c'est sûr, c'est normal. » Je savais pas que vous écriviez. J'ai envie de leur répondre, moi non plus. Mais mais là, je l'ai moins, cette réaction. Je suis ravie lorsqu'on me dit, « Hey, j'ai tout lu vos affaires, là. J'ai tout lu vos romans. » Ou alors, beaucoup vont emprunter dans les bibliothèques, ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a le droit public, tu es au courant de cette c'est pas un projet, là, c'est vraiment un organisme fédéral, le droit public. Alors, les auteurs où on va chercher, on va emprunter les livres dans les bibliothèques à travers le Canada, eh bien, on a quand même...
Un montant d'argent.
Oui, un petit pourcentage. C'est pas énorme, mais c'est le fun quand ça arrive une fois par année, tu sais.
C'est sûr.
Donc, ceux qui vont dans les bibliothèques et qui vont chercher des livres, parce qu'on le sait, c'est quand même assez cher, c'est coûteux. Puis, alors, ceux qui vont emprunter des livres, eh bien, ils savent pas, hein. La plupart ça, ne le savent pas. Les bibliothécaires le savent, puisque c'est elles et c'est eux qui se promènent dans les salons du livre et qui vont voir les nouveautés. Ils prennent des notes et ils font venir les livres.
Oui, ils font les
c'est comme ça que ça fonctionne. Hein?
Il n'y en a pas eu de salon du livre depuis un
an. Ah, il y a qu'on s'ennuie.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça te manque? Parce qu'évidemment, le métier d'auteur, autrice, c'est très solitaire. Et c'est les salons du livre qui sont ces rencontres-là avec les gens qui nous lisent.
C'est le contact. C'est le contact avec ton lectorat qui nous manque. Hier, si je peux aborder le focalisation zéro.
Ouais, m'en allais là.
Hier soir, c'était la première en onde. Maintenant, c'est sur le web.
Sur le web, ouais.
Bon. Alors, c'est la Ligue nationale d'improvisation, une idée de François-Étienne Paré, qui a mis sur pied Focalisation zéro. Il a fait appel à 9 auteurs. Je ne peux pas tous les nommer, mais il y a Louise Portail, il y a Christine Brouillet. Demander à 9 auteurs d'écrire comme une petite histoire en 4-5 portions. Et entre ces portions-là, il y a des acteurs qui vont improviser sur ce que tu as écrit. Tu sais. Et hier soir, Focalisation zéro était sur le web pour le premier épisode. Et le mien va passer jeudi prochain, le 22 avril. Mais moi, je suis tellement excitée. Parce que je suis certaine que Focalisation zéro, ça s'en va à la télé. Ça va être à la télé. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai fait dans Téléroman, parce que on voit tout ce qui se passe pour réaliser. Ça ressemble à même un tournage de film. Sauf que c'est à 3 caméras. Mais t'as l'auteur, parce qu'on nous voit. On nous voit lire nos textes. T'as l'auteur. T'as le plateau. T'as le décor. Les costumes. T'as les acteurs. Le réalisateur, tu le vois. Tu le vois passer. Tu vois le plateau bouger comme c'est normalement, là. Ça s'est jamais fait, ça. On n'a jamais vu ça. De voir tout ce tout, de l'auteur jusqu'au montage final avec la musique originale. Pff, hallucinant. Focalisation zéro. Alors, bon. Tu vois?
Et je vais te parler de Focalisation zéro parce qu'on en a parlé un peu. 22 avril, toi, ton texte, ton bout de texte.
Alors, le titre, c'est « Pour le meilleur et pour le pire ».
OK.
Ouais.
Et ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que tu fais la narration, donc il y a une ligne de narration au départ.
Oui.
Et là, dans ton cas, c'est Laurent Paquin et Salomé Corbeau.
Hey, j'ai été gâtée.
Qui doivent prendre la balle au bon, improviser.
Voilà.
Avec le début, et tu reviens plus tard, donc avec une suite d'histoires écrites.
Oui.
Et là, eux doivent s'adapter à ce que tu leur redonnes.
Exact. Où est-ce qu'on est rendu? Alors, ils s'adaptent. C'est pas moi qui m'adapte, parce que moi, j'ai écrit ça en janvier, mettons. Oh, oui. Bon. J'ai écrit 5 petites 5 courts textes, mais dans ces textes-là, ben, il y a une progression. Je m'en vais, moi, quelque part. Mais entre ça, dans les improvisations, eux ne savent pas la suite. C'est vraiment la Ligue nationale d'improvisation. Oh. Et Laurent Paquin, il m'a jeté à terre. Parce qu'évidemment, j'ai vu j'ai visionné l'épisode, là, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est ça, les gens me demandent, c'est pas à la télé, ben non, c'est pas à la télé, il faut aller sur le web, il faut aller sur LNI, la Ligue nationale d'improvisation, Focalisation zéro. Ça coûte 10 $ par épisode. Je sais qu'il y en a qui ont pris le forfait.
On peut acheter pour l'année, je pense que c'est 70, je pense pour toute l'année.
Non. Non, là, c'était, c'était 9 épisodes pour 70 $.
Ah oui, c'est ça.
Un petit prix spécial, ou 10 $ tu veux regarder tel épisode, mais c'est ça, tu sais. Mais encourager un peu la Ligue nationale d'improvisation en tant que pandémie.
Tout à fait.
Encourager le fait que les acteurs, on se revire de bord et on travaille. On invente notre métier, notre boulot, avec un truc pareil.
On réinvente même l'impro. C'est quand même pas rien.
C'est ça. Comme j'expliquais un petit peu avant, c'est une idée de François-Étienne Paris. Ça va se vendre. Ça, c'est sûr que ça s'en va à la télé. C'est que tu vois tout. Tu vois l'auteur. Tu parles de l'auteur qui lit ce qu'il a écrit. Tu vois la partie où les acteurs improvisent, mais là, la partie où est-ce qu'ils improvisent, tu vois le plateau. Tu sais, c'est pas le téléroman, la télésérie habituelle.
Ouais, ouais.
Tu vois les caméras, tu vois les caméramans, les gens qui circulent sur le plateau, le réalisateur est là, le clap. Alors, c'est comme si on faisait un peu de cinéma aussi, là. Alors, évidemment, il y a du montage, tout ça, là. Mm-hmm. Mais les acteurs ne reprennent pas, ils improvisent, c'est fait. Puis on revient avec l'auteur qui lit la suite. Mais la suite, c'est pas... ça se raccroche pas à ce qui vient
Non, évidemment.
D'improviser. C'est fabuleux. Vraiment, Luc, là, je suis pas la seule, on est 9 auteurs qui avons participé à Focalisation Zéro, donc une première sur le web. Et entre autres, Louise Portal, Christine Beauillet, et d'autres aussi. Rebecca Deraspe, c'était ouais. Elle, hier soir, l'auteur, qui est aussi comédienne, je pense, Rebecca. Non?
Oui, je me semble que oui.
Il me semble que oui, en tout cas. Puis, il y a aussi des auteurs et des autrices.
Mais est-ce que ça t'a impressionné, ce qu'ils ont fait avec ton texte? Parce qu'évidemment, tantôt on parlait du regard extérieur de Denis quand t'écris, c'est un peu ça aussi. Là, les acteurs font de l'impro, c'est un regard extérieur. C'est comment eux, ils imaginent l'histoire que tu commences, au départ.
Ben, ils deviennent les personnages que toi, tu as écrits dans la mise en situation. Ouais. Là, c'est une mise en situation, le premier paragraphe, si tu veux. Et puis ensuite, ils partent là, avec ce que tu as écrit. Très impressionné. Laurent Paquin, c'est tout un acteur. Tu sais, c'est un comique, c'est un humoriste.
Oh, oui.
Mais, en tout cas, si vous voyez l'épisode du 22 avril, pour le meilleur et pour le pire, que j'ai écrit, là, il est aussi drôle, parce qu'il y a un bout, c'est comique, il est drôle. Puis c'est un pain sans rire. Tu sais, il rit pas de ses blagues.
Non.
Il va lancer 2-3 phrases, puis c'est tellement drôle. Il y a un sens d'humour extraordinaire. Et à un moment donné, dans le texte que moi j'ai écrit, j'ai ouvert une petite porte, et cette porte-là, bien, Salomé l'a pris. Elle a embarqué là-dedans. Elle a avoué un secret bien gardé. Et là, Salomé Corbeau, qui est absolument fantastique comme actrice, elle pleure, elle commence à pleurer. Mon Laurent Paquin, toi, pleure. Tu sais, c'est vrai, là. C'est pas de la frime, là. C'est vrai. Ils improvisent, puis Laurent part à pleurer. Mais c'est tout est intérieur. Tout est intériorisé. Ben, j'ai dit, dis donc, il fait honneur à ce que j'ai écrit. À la petite porte que j'ai voulu que les acteurs prennent, ben, ils l'ont pris. sans les guider sur quelque chose de précis. Non, ils ont improvisé.
On va inviter les gens à se procurer des billets pour ça. C'est virtuel, évidemment,
ben oui.
Le 22 avril à 19h, sur le site de la LNI, toutes les informations.
Bien, c'est mieux de... Si vous voulez y aller, c'est peut-être mieux de ne pas le faire à 19h précise, avant, là, avant. Mais il y a toute une série. C'est les mardis et les jeudis à 19h, LNI, sur le web.
Ouais.
Focalisation zéro.
Christine, je vais inviter les gens à se procurer Téléroman saison 1, qui est disponible partout, à surveiller Téléroman saison 2. Tu vas revenir nous en parler.
Oh, c'est sûr, ça va me faire plaisir, mon beau Luc.
Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.